Le Serial Blues Band sur les ondes de Radio Escapade, le Serial Blues Band qui démarre sur le top horaire. Oh, j'ai un gros souci de balance, je ne m'entends que dans mon oreille gauche pratiquement. Et en plus, je me trouve trop fort. Et ouais, je suis trop fort. Hop, est-ce que ça va corriger un peu le problème? Oh, ça y est, je commence à me sentir un peu plus équilibré. Voilà, bref. Tout ça pour vous dire que il est l'heure de retrouver Écriture dessinée en compagnie de Bruno Canard. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. La question de l'équilibre, c'est un grand chantier. Aujourd'hui, l'émission va être consacrée à Johann Sfar. En janvier, les idolâtres faisaient suite à la synagogue. Le livre était centré sur sa mère qui est décédée alors qu'il était tout jeune enfant. Le 16 avril sortait Nous vivrons, enquête sur l'avenir des Juifs. Carnet autobiographique plus volumineux avec un lavis bleu additionnel. Livre sur le 7 octobre et après. Johann Sfar poursuit son questionnement de l'identité juive, convoque des voix en France mais aussi en Israël, juive, israélienne, arabe, musulmane, interroge la presse, le journalisme, les intellectuels. Nous sommes avec Johann Sfar à partir de 14h15 pour nous immerger dans cette parole puissante, indissociable du dessin. À tout de suite.
Écriture dessinée.
Vous l'avez entendu, Fabien est maintenant équilibré, tout va bien, il est toujours très fort. Et donc, la technique est assurée par ses bons soins. La partie musicale, eh bien, elle va être centrée en fait sur l'ukulélé. L'ukulélé qui est un instrument que pratique Johann Sfar. Il en a fait même un carnet. Et donc, on va écouter successivement Country Comfort. Eddie Vedder, le leader de Pearl Jam, qui a fait un album solo à l'ukulélé. Et bien sûr, le Big Ukulele Syndicate, incontournable. Alors, une fois n'est pas coutume, je voudrais démarrer par une présentation des livres de Johann Sfar, donc de l'auteur qui est en entretien dans l'émission, parce que il est important que vous ayez la même connaissance que moi pour apprécier au mieux l'entretien. Et ces deux livres sont intenses, importants. Et donc, il est nécessaire, pour moi-même indispensable, de présenter plus en détail ces deux derniers livres pour que vous puissiez apprécier au mieux l'entretien et la parole de Johann Sfar. Le premier, c'est « Les idolâtres », qui est un livre qui fait suite à La Synagogue, qui a été publiée 2 ans auparavant, qui était centrée sur la figure du père de Johann Sfar. Cette fois, Les idolâtres, eh bien, c'est sur la figure de sa mère qui a la première place. Sa mère qui est décédé quand il était très jeune, il avait 3 ans et demi, et il montre comment cette absence est marquante dans à la fois son rapport à l'autre, mais aussi au dessin lui-même. Il y a un moment important et fort dans Les idolâtres qui est le moment où Johann Sfar va expliquer la mise en œuvre de chacun de ces livres. Il y a à chaque fois une volonté d'adapter le dessin au propos narratif, à la forme du livre. Et c'est le cas, par exemple, des idolâtres qui n'est pas de la même forme que les carnets. On a donc un grand format avec une écriture dessinée beaucoup plus posée, c'est-à-dire que il y a un découpage en bande d'images qui va être un peu plus classique, mais qui n'a pas du tout la même présentation que dans les carnets. Là, on est vraiment sur les découpages d'une page de bande dessinée, alors que la bande d'images, souvent dans les carnets, est absente. Il y a du dessin sans cadre et puis un agencement dans la page. Il y a donc là cette volonté d'avoir ce dessin qui prend un peu plus son temps. On a l'utilisation parfois de trames. Sur ce trois bandes, on a quelques variations avec des images pleine page. Et puis ce rapport aussi à l'écriture du texte qui est un point fort des œuvres de Johann Sfar, puisque sa calligraphie est très dynamique, très vivante. C'est pas du tout une calligraphie numérisée, mais qui est toujours en lien avec l'énergie du trait à l'œuvre dans les dessins de Johann Sfar. Même si, comme pour les idolâtres, le trait est plus posé, il y a une dynamique, une tension qui reste dans ce trait par sa vivacité. Et la calligraphie est en lien avec cette intensité. Et notamment pour les idolâtres, même si cette calligraphie est plus posée, elle est toujours avec cette même énergie dans le trait. Alors, il y a une partie dessin qui est donc importante, qui va être une des chaînes narratives de ce livre, où Johann Sfar va revenir sur son apprentissage, va questionner le dessin comme... et c'est le rapport au titre « Les idolâtres », comme cette façon de... d'idolâtrer à travers le dessin, et il va tout au long de ce livre réfléchir, poser les différents points, les différentes façons d'aborder le dessin, les questionnements, la relation qu'il a eue avec un professeur aux Beaux-Arts, Jean-François Debord, qui a été un très grand professeur pour Johann Sfar. Ces questions, et notamment une sorte d'injonction, tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux ou en bas sur la terre. Et c'est donc ce rapport entre le dessin, entre l'image, entre la photo et l'idolâtrie qui va être donc une des chaînes narratives de ce livre. Il y a une narration croisée où on va voir les moments où Johann Sfar est avec une psychiatre. Il y a donc cette importance de la psychanalyse et de ce qui reste de cette psychanalyse une fois qu'elle est arrêtée. Il y a tous les moments de l'enfance, et là c'est toujours la construction de cette personnalité et de cette personnalité de dessinateur qui est à l'œuvre dans Les idolâtres. Il y a donc ce parcours, ce mouvement des idées à l'intérieur du livre qui prend le lecteur, qui va accompagner ce mouvement spirituel et intellectuel, et qui fait qu'on plonge, on est et on accompagne Johann Sfar tout au long de ce cheminement. Ces questions de dessin, il les aborde assez régulièrement. Jungmann était un des exemples de carnet récent où il a vraiment interroger cette question du dessin. Et là, avec Les idolâtres, il poursuit, il avance, il continue et pose en tout cas cette relation au dessin et cette importance de représenter le réel qui est pour lui une façon d'être au monde. Les idolâtres, donc de Johann Sfar, c'est publié par les éditions d'Argo. Les 208 pages de ce livre sont au prix de 27 €. C'est un livre imprimé en France avec beaucoup de soin. Petite virgule différente avec de l'ukulélé. Le deuxième livre qui va être au centre de notre discussion avec Johann Sfar, c'est « Nous vivrons, enquête sur l'avenir des Juifs ». Il peut s'inscrire, et il s'inscrit dans les carnets autobiographiques. Johann Sfar, dans une postface, va évoquer cette importance des carnets qui ont ce matériau même qui est la vie de l'auteur, mais qui à chaque fois ont des tonalités différentes, des axes narratifs différents, des préoccupations au niveau des questions sociales et des questions religieuses, de la question juive différente, qui n'est pas du tout traitée de la même façon. Il y a dans ce livre, vraiment dense, hein, c'est un livre, je retrouve le nombre exact de pages, c'est 456 pages, donc c'est vraiment une interpellation de ce qui s'est passé le 7 octobre et après. C'est vraiment à la fois une condamnation, il y a toute une partie sur le poids du silence d'un certain nombre de personnes qui n'arrivaient pas à condamner, à considérer le massacre du 7 octobre par le Hamas comme une barbarie, comme un terrorisme. Et il y a après aussi toute une partie sur la barbarie qui se poursuit, qui continue du côté du Hamas, mais aussi avec l'État israélien, avec notamment le gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui est au service des micro-partis extrémistes et qui met en œuvre ces massacres à Gaza et aussi les actions et les condamnes des colons en Cisjordanie. Il y a dans Nous vivrons ce principe de l'enquête qui fait que il y a bien sûr le cheminement de la pensée de Johann Sfar par rapport à ces événements, mais il va aussi faire des entretiens avec différentes personnalités en France, mais aussi en Israël. Il va convoquer des historiens, avoir donc des points de vue de tous bords, aussi bien juifs, israéliens, arabes, musulmans. Et donc, on a une parole qui est une parole risquée, qui va prendre une dimension tout au long de ce livre, qui va se déployer, qui va s'engager comme une parole ressource pour que nous-mêmes, nous puissions avoir des idées beaucoup plus claires, une connaissance des événements beaucoup plus précise. Johann Sfar va insister sur l'émancipation des peuples, sur ces vies communes entre juifs et musulmans qui ont eu des moments très forts, très puissants par le passé, qui sont même sur un territoire commun historiquement, et ça remonte à très loin. Et il y a donc à chaque fois une volonté d'être au plus près dans cette précision, avec cette fois une mise en image qui relève beaucoup plus de celle des carnets, avec un dessin très énergique. Donc on est beaucoup moins posé, il y a une sorte d'urgence qui sous-tend ce dessin, et le lettrage va être donc un peu plus dans la dynamique de ce trait que par exemple dans les idolâtres. C'est un livre qu'on referme avec, en tout cas pour moi, cette volonté très intense de pouvoir parler à Johann Sfar et qu'on puisse l'entendre donc, dans quelques instants. Alors, Nous vivrons, enquête sur l'avenir des Juifs, est publié par Les Arènes, bande dessinée, et les 456 pages de ce livre sont au prix de 35 euros. Un prix tout à fait raisonnable et le format est quand même légèrement plus important que les carnets habituels. Et ben, nous allons écouter Country Common.
So I'm gonna go down on the road again, starting where the mountain left me. I end up where I began. Where I will go, the wind only knows. There's good times around the bend. Get in my car, I'm going too far, never coming back again. Tired and worn, I woke up this morning, found that I was confused. Spun right around and found I had lost the things that I couldn't lose. The beaches they sell to build their hotels, my father's and I once knew. The birds all along, the sunlight at dawn, singing why my Manalo blue. And so old, far on the countryside. Birds on the wind forgetting their wild, so I'm headed for the windward side. In all of your dreams, sometimes it just seems that I'm just along for the ride. Some they will cry because they have pride for someone whose love they died. They sell to build their hotels, my fathers and I once knew. Birds all along, the sunlight at dawn, singing why Manalo blues, singing why Manalo blues, singing why Manalo blues.
Postface de Nous vivrons, Johann Sfar se dit obsédé par le journalisme et le travail d'historien. À travers ses carnets, démarrés en 2002, il se livre. L'autobiographie en est un moteur essentiel. Il convoque également le reportage, les témoignages, questionne l'identité juive, cherche une légèreté qui lui reste interdite. Il se qualifie comme un véhicule d'observation valide. Et rêve d'être aussi pertinent qu'Alexandre Dumas ou Joseph Kessel. Son dernier livre, Nous vivrons, enquête sur l'avenir des Juifs, a été démarré après le 7 octobre. Cette date marque le début de la barbarie perpétrée par le Hamas et Netanyahou et les micro-partis d'extrême droite au pouvoir en Israël. Johann Sfar pointe l'explosion des actes antisémites en France et à travers le monde. Se révolte du silence de certains incapables de qualifier les massacres perpétrés par le Hamas de barbarie. Il condamne cette extrême droite israélienne qui impose sa barbarie à un peuple d'Israël qui ne veut rien avoir avec ça. Page 398, alors je vais vous la lire parce que c'est vraiment... Un extrait d'une phrase de Ingrid, qui est journaliste et qui enseigne le journalisme. Ce n'est pas un état d'apartheid, c'est un pays où le gouvernement en place choisit de ne pas poursuivre les agissements criminels de groupuscules d'extrême droite. Ce que l'immense majorité des Israéliens voit comme une guerre tragique, ces colons la voient comme une opportunité pour pousser leur agenda. Au fil des carnets, la parole de Johann Sfar s'intensifie. cette parole risquée, engagée et pertinente est une légitime ressource. Les carnets ne sont pas des premiers jets, comme la vivacité du dessin pourrait le laisser croire. Il note, il enregistre, s'appuie sur les relectures de journalistes et d'historiens pour valider les chiffres notamment. Il ne lâche rien sur la justesse factuelle, sur la trame romanesque, sur la réelle présence des sujets dans l'époque. La bande dessinée reste pour Johann Sfar le véhicule idéal pour porter cette parole. Nous sommes en direct avec Johann Sfar pour évoquer les idolâtres et nos vivrons. Bonjour Johann Sfar.
Bonjour.
Alors, une première question, dans les idolâtres, vous évoquez à un moment ce choix du dessin qui peut varier selon le livre, selon les thèmes. Alors, comment c'est fait ces choix, aussi bien pour les idolâtres que pour nos vivrons?
Oui, moi je suis avant tout dessinateur de bande dessinée. Vous l'avez dit, j'ai une passion pour l'histoire, j'ai une passion pour les journalistes, parce que dans une époque de post-vérité, c'est le journalisme et le travail d'historien qui nous sauveront. Mais moi je suis dessinateur de bande dessinée, donc mes influences, c'est Tintin et c'est Corto Maltese. Et pour Nous Vivrons, j'ai tenté de faire de la bande dessinée à la fois d'aventure et de reportage, et j'ai fait de mon mieux pour transformer toutes les personnes que j'ai interviewées en personnages de bande dessinée, tout en gardant la justesse de ce qu'ils disaient, mais en essayant de faire tout de même un vrai récit avec un début, un milieu, une fin, avec un sujet, rester dans mon sujet, comme on dirait dans une dissertation. Donc là, il y a eu vraiment une volonté d'attraper le réel avec le dessin, dans un travail qui a duré 4 mois, et pendant lequel j'ai rien fait d'autre. Il y a eu évidemment interroger les Juifs en France, mais partir en Israël et rencontrer tous les gens que je connais là-bas, parce que toute ma famille paternelle est israélienne et je travaille par ailleurs là-bas pour de la télévision. Donc j'ai la chance de connaître beaucoup de monde. Et le but a été de faire parler aussi beaucoup de musulmans d'Israël, beaucoup de Palestiniens, dont l'opinion était... Enfin, tout était... j'ai appris beaucoup de choses, j'ai découvert une réalité tout aussi douloureuse que ce qu'on voit derrière notre télévision, mais parfois plus complexe. On peut noter la complexité d'un conflit sans cesser de se révolter, on peut être tout à fait révolté et de ce qui se passe à Gaza et de ce qu'a subi Israël le 7 octobre, tout en réfléchissant. Je pense qu'on peut être militant sans s'interdire de réfléchir.
Pour les idolâtres, comment s'est fait le choix graphique ?
Alors les idolâtres, c'est autre chose. C'est après avoir fait le chat du Rabbin pendant 25 ou 30 ans, j'ai décidé de donner les clés à mes lecteurs, de raconter que le chat c'était moi nourrisson et Zlabia c'était le souvenir de ma mère qui est disparue avant que j'aie 4 ans. Et j'ai raconté le Nice de mon enfance comme un récit historique, donc avec les mêmes outils que dans le chat du Rabbin, c'est-à-dire de la bande dessinée coloriée par Brigitte Findakli avec de très très jolies couleurs et traiter finalement les années 70-80 à Nice comme un terreau de reconstitution historique, puisque malheureusement, c'est déjà bien loin, puisqu'on vieillit.
Alors, sur Nous Vivrons, il y a ce sous-titre, Enquête sur l'avenir des Juifs. Pourquoi ce mot enquête ? Qu'est-ce qui recouvre pour vous ?
C'est très important parce que, alors le prenez pas mal, mais les bandes dessinées de reportage m'emmerdent. On a souvent un spécialiste, un illustrateur, puis ça donne une BD, on est content de l'offrir, mais on la lit pas jusqu'au bout. Enquête, c'est autre chose. Enquête, c'est on va utiliser vraiment les outils de Tintin et de Corto Maltese. Je me suis emparé d'un sujet parce qu'il me touche viscéralement, donc j'ai écrit et dessiné moi-même. Ça n'empêche, comme vous dites, qu'il y a eu des relectures scientifiques, il y a eu des historiens, des journalistes, mais enfin tout de même, j'ai raconté mon histoire pour des motifs très intimes, et c'est là que la bande dessinée est la meilleure, me semble-t-il, c'est quand il y a un auteur complet qui raconte un sujet parce que ça a un intérêt immédiat pour lui. Et la bande dessinée d'enquête, ça, c'est un genre de bande dessinée.
Alors, il y a un moment, c'est plutôt dans le début du livre, cette révolte contre le silence qu'ont eu certains vis-à-vis du 7 octobre. Comment vous le voyez aujourd'hui, 4 mois plus tard ? Plus 6 mois, 7 mois plus tard.
Oui, il y a eu un silence causé par 1000 choses que j'ai pas à expliquer, c'est pas mon rôle, mais c'est pour occuper ce silence que j'ai commencé à dessiner. Je savais même pas que c'était un livre au début. Je voulais donner une voix à tous les Français de culture juive ou de religion juive qui se sentaient déchirés par les événements, Et j'ai voulu donner une voix à ça parce qu'il y a eu immédiatement, et avant même la riposte israélienne, plus 1000% d'augmentation des attaques anti-juives. Donc la vraie conséquence du 7 octobre immédiate, ça a été d'abord un silence et de la violence contre les juifs, qui étaient en France en plus, qui ne sont pas israéliens. Et ça, moi, il ne m'appartient pas de l'analyser. Mais par contre, je décris et je raconte le changement immédiat dans la vie des juifs de France, c'est-à-dire avoir peur de parler hébreu dans la rue, rentrer vite de l'école quand les enfants ont un nom juif, cacher les pendentifs porte-bonheur s'ils sont en lettres hébraïques. Enfin, ça a vraiment changé notre vie, et d'autant plus douloureusement que la communauté juive a toujours été très laïque, très républicaine, très attachée aux institutions françaises. Et même ce mot de communauté juive m'agace, parce que la plupart des juifs que je connais n'ont rien de communautaire. Donc Jean-Paul Sartre disait c'est l'antisémite qui fait le juif. La réalité, c'est qu'avant même de penser au Proche-Orient, au lendemain du 7 octobre, on s'est tous retrouvés, oui, en danger, il n'y a pas d'autre mot. Quand il y a plus 1000% des agressions, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, d'une certaine façon, il n'y a plus le temps de penser, il y a une panique.
Aujourd'hui, comment les choses ont évolué par rapport à ces actes antisémites? Est-ce que ça perdure?
Moi, la part optimiste de moi-même veut croire que c'est une conséquence du Proche-Orient et que ça va se calmer quand ça se calmera au Proche-Orient. D'autres gens plus pessimistes disent non, ce qui s'est passé au Proche-Orient a servi de révélateur à quelque chose de dormant, une espèce de consensus un peu imbécile de gens qui ne connaissent pas de juifs, qui n'en fréquentent pas, mais qui ont des clichés qui amènent à faire souffrir une partie de la population de notre pays. Je crois qu'au-delà de la population juive, il y a un malaise identitaire en France qui fait que tous les gens qui, c'est pas leur faute, ont une religion ou ont une identité ou font partie d'une minorité se sentent stigmatisés ou se sentent mal à l'aise. Ça, c'est la chose générale. L'explosion de violence, malheureusement, c'est uniquement contre la communauté juive qui représente 0,6% des citoyens français.
Il y a dans Nous vivrons toute une partie sur cette émancipation des peuples, sur aussi cette nécessité de faire peuple, aussi bien pour les Israéliens que pour les Arabes. Donc vous reprenez une thèse de votre père. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette émancipation des peuples? Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous entendez par là?
Bah oui, ça c'est un combat perdu, mais je rêve que tous les gens qui se passionnent pour le Proche-Orient s'informent sur le Proche-Orient et étudient son histoire, parce que on est tellement marqué en France par l'histoire du Maghreb, l'histoire de l'Algérie, l'histoire de la colonisation, qu'on s'imagine que c'est la même histoire au Proche-Orient, sauf que c'est très différent. Les musulmans et les chrétiens arabes du Proche-Orient n'ont pas la même histoire que les Algériens, les juifs d'Israël n'ont pas la même histoire que les juifs de France. Et alors effectivement, la thèse que défendait mon père, mais qui n'est pas du tout idiote, il disait des pays jusqu'au 19e siècle, il n'y en avait pas, il y avait des empires. Et quand les empires se sont écroulés, l'Empire ottoman en l'occurrence, et puis le Commonwealth britannique, des aspirations nationales ont vu le jour, et Théodore Herzl, pour ne pas le nommer, a eu l'idée d'un État juif au Proche-Orient, ça c'était au début du 20e siècle, et 1 million de juifs se sont fait foutre dehors du monde arabe au début du siècle sur l'écroulement de l'Empire ottoman à la suite de pogroms, de mauvais traitements, et ils ont formé, ainsi que les juifs russes, une grande partie du peuplement d'Israël. Et à la suite de ça, Yasser Arafat a eu l'idée d'un État palestinien. Et mon père disait, il n'y a pas d'Israéliens sans Palestiniens, il n'y a pas de Palestiniens sans Israéliens, car ce sont deux identités modernes. Et à chaque fois que quelqu'un voulait explorer la Bible ou le machin pour dire sa légitimité dans cette région, il avait une réponse de juriste. Il disait, un peuple existe quand il se considère comme un peuple. Et il avait une autre phrase que j'aimais beaucoup. Il disait, quand les pays arabes refusent l'existence d'Israël, c'est aussi leur manière de refuser l'existence d'un État palestinien. Et ce discours qui était tout à fait moderne et vraiment intéressant, il était possible il y a 30 ans. Moi, je suis arrivé à Paris en 1990. Je participais à des rencontres israélo-palestiniennes à la fac de Jussieu avec des étudiants français. Et ça se passait très bien. Même quand on avait des opinions très diverses, ça s'exprimait autour de la même table. Aujourd'hui, cette table de négociation n'existe plus en France parce que je crois qu'il n'y a plus la connaissance historique nécessaire. Il y a beaucoup de jeunes qui sont à raison scandalisés par ce qui se passe au Proche-Orient, qui ont envie d'en parler, mais qui ne sont pas armés pour et qui débitent des slogans. Et moi, j'aime mieux revenir à des histoires humaines, revenir au destin individuel des populations qui sont là-bas. Et le livre « Nous vivrons », c'est exactement ça, c'est faire parler des vrais gens. Et plus je les fais parler, moins j'ai de certitude. Et je mesure que plus les gens connaissent le Proche-Orient, moins ils ont de certitude.
Il y a dans cette continuité la condamnation du gouvernement Netanyahou et des micro-partis extrémistes, et notamment dans une personne va évoquer une solution possible à cette situation qui est virer Netanyahou. Comment c'est possible ?
Qu'est-ce que vous c'est pas très compliqué. Le problème, c'est que ces micro-partis dont vous parlez d'extrême droite, le problème, c'est qu'ils sont au gouvernement. Israël, c'est une démocratie, mais c'est une démocratie qui fonctionne à la proportionnelle intégrale. Ça veut dire que des partis qui ont 3 ou 4% des voix peuvent décider de vote. Et il y a certainement une volonté du gouvernement Netanyahou depuis quelques années, de transformer Israël en un État religieux, en un État où il y aurait davantage d'inégalités entre les musulmans et les juifs. Il y a 2,5 millions de musulmans en Israël. Et ce qu'on ne sait pas depuis la France, c'est qu'une immense majorité d'Israéliens se battent contre ça. Malgré la guerre, il y a des centaines de milliers d'Israéliens qui manifestent toutes les semaines contre le gouvernement Netanyahou. Il me semble que ce gouvernement n'est encore en place que parce que la guerre est là. Dès que la guerre va s'arrêter, ils vont se faire virer. D'abord parce que personne ne leur pardonne le 7 octobre, parce que c'est de leur faute. Et ensuite, au stade où on en est aujourd'hui, personne ne comprend l'opération militaire en cours.
Kishka, dans sa bande dessinée L'autre Jérusalem, évoque une séparation de l'Église et de l'État en Israël. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ça, c'est passionnant. On ne peut pas s'empêcher, nous, de regarder Israël et les pays avoisinants avec un rêve de laïcité républicaine. Mais ça n'arrivera jamais en Israël. C'est-à-dire qu'Israël, c'est pas un État religieux, c'est un État multiconfessionnel, multiethnique, beaucoup plus ouvert qu'on se le raconte, puisqu'il y a des musulmans à la Knesset, il y a des musulmans qui enseignent à l'université, il y a des musulmans parmi les plus grands médecins d'Israël. Cependant, chacun commence par dire de quelle communauté et de quelle religion il est issu. Donc, si quelqu'un rêve d'un Israël où les identités religieuses et ethniques n'existeront plus, malheureusement, ça n'arrivera jamais. En revanche, moi, ce qui m'importe, c'est de ne pas importer ça en France. C'est-à-dire que pourquoi je me sens français sans discussion et je me sens beaucoup plus heureux en France qu'au Proche-Orient, c'est parce qu'en France, on peut vivre sans qu'on nous colle notre identité sur la tête en permanence. Et finalement, c'est ça qui est en jeu, ce que je disais au sujet des Juifs en France depuis le 7 octobre, c'est qu'on nous rend Juifs même quand on ne l'a pas demandé. Moi, on a des excuses parce que je passe mon temps à faire des BD sur les Juifs, c'est mon sujet. Mais la plupart des Juifs, ils n'ont pas forcément envie qu'on leur parle de Netanyahou toutes les deux secondes.
Johann Sfar, je vous propose une pause musicale. On va écouter un peu d'ukulélé. Et puis on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.
Merci. I wanna shake. I wanna wind down, I wanna leave this mind and shall have lived all these lines like an ocean in the skies. I won't live for ever. Oh, you can't keep me here.
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Johann Sfar à l'occasion de la sortie de ses livres Les Idolâtres en janvier et Nous vivrons, enquête sur l'avenir des Juifs, paru au mois d'avril. Johann Sfar, vous citez à plusieurs reprises Clément Rosset, notamment cette phrase « Dès que l'on approfondit, on quitte le réel ». C'est une phrase un peu surprenante, puisque vous ne cessez d'approfondir, finalement, au fil des carnets.
Est-ce que j'approfondis ce que disait Clément Rosset et ce que dit le portraitiste ou le dessinateur d'après nature que je suis, c'est qu'il vaut parfois mieux regarder et fermer sa gueule. Toute volonté de systématiser, de trouver une logique dans un monde qui parfois n'en a pas et qui parfois est totalement incohérent, va nous éloigner du réel. Un exemple qui me vient en tête, c'est je parlais avec Yossi Yona, qui est un député irakien de la Knesset, donc député israélien juif oriental, qui disait « T'arrives en Israël, quand quelqu'un te raconte quelque chose, que ce soit un musulman ou un juif, t'as envie de prendre très au sérieux ce qu'il te raconte et d'échafauder une théorie. » Il parlait de diplomate, il parlait de politique. Et le même type va te dire autre chose le lendemain, ou quelque chose différemment. Alors, tant que tu n'intègres pas l'espèce de bordel ambiant de la manière qu'ont les orientaux de faire de la politique, t'es ailleurs. Tu as l'impression d'approfondir, mais t'es ailleurs. Et il y a eu une phrase extraordinaire que j'ai entendue. Il m'a dit « On est un pays arabe comme les autres, sauf qu'on est juif. » Et j'ai trouvé ça très éclairant, et cette apparente superficialité, ou alors mon père qui disait « on est avec Israël parce qu'on est juif, si on était musulman, on serait avec la Palestine ». C'est une manière de dire que tout le monde a raison, et que les gens réagissent non pas parce qu'ils ont des pensées très profondes, mais parce qu'ils sont broyés ou mus par leur histoire. Par exemple, sur l'attachement des juifs à Israël, tout le monde peut faire des théories philosophiques dans tous les sens, mais la réalité, c'est que plus de la moitié des juifs qui vivent sur cette planète habitent en Israël. Donc on a tous de la famille là-bas et il ne faut pas le chercher plus loin, l'attachement.
Johann Sfar, quel dessinateur êtes-vous? Comment ça se passe sur votre table à dessin, s'il y en a une?
D'abord, ça se passe très bien, parce que le dessin me rend toujours joyeux, même quand je dessine des choses très tristes. C'est-à-dire que quand je ne vais pas bien, je dessine, et puis après, ça va mieux. Ensuite, je suis un dessinateur très sociable, donc je travaille au café, je travaille au milieu de la famille qui fait du bruit, je travaille au milieu des amis, je travaille la télé allumée. Finalement, la seule chose que j'aime pas, c'est le calme. Et j'ai besoin que le dessin, au même titre que la guitare, soit une discipline qu'on pratique au milieu des gens. Voilà. Je crois que je suis très joyeux, même quand je dessine des choses très tristes.
Comment s'est fait l'écriture de Nous vivrons ? Est-ce que c'était vraiment une continuité avec l'écriture au fur et à mesure ? Ou est-ce qu'à un moment, vous cherchiez à avoir une vision d'ensemble avec des points de passage que vous auriez définis à l'avance ?
Mais c'est une excellente question, parce que depuis 30 ans, je fais des carnets autobiographiques qui sont faits page après page. Nous vivrons, ça en a l'aspect, mais en fait, c'est très nouveau. Il y avait 150 pages de plus que ce qu'on a publié, et tout ce que j'ai écrit et dessiné, ça a été re-rangé, réécrit, redessiné, avec le concours de l'éditeur, d'historien, de journaliste. Donc on a vraiment fait le même travail que sur un roman ou que sur un reportage. On a utilisé mes dessins comme un matériau, et on a écrit autour un cheminement qui commence en France, qui se termine en Israël et qui amène, j'espère, une réflexion, c'est un bien grand mot, mais qui amène un portrait de la situation. Je voudrais que ce livre puisse être utilisé, je ne me prends pas pour un journaliste, mais je voudrais que ce livre puisse être utilisé par les journalistes et par les historiens.
Comment on termine un tel livre? À quel moment cette question de la fin du livre apparaît, Johann Sfar?
Alors là, cette question, elle s'est beaucoup posée à tous les niveaux. La première, c'est est-ce qu'on peut faire aussi vite un ouvrage sur un sujet aussi grave sans risquer de se planter? Donc je me suis donné le temps qu'il fallait pour que ce soit terminé. Ensuite, on n'avait pas la moindre idée de ce qui se passerait au Proche-Orient au moment où le livre serait publié. Pour le dire autrement, quand j'ai terminé mon livre, un de mes petits cousins était dans le coma, il a été blessé à Gaza, mais l'intervention israélienne n'en était pas au degré d'intensité où elle en est aujourd'hui. Enfin, ça a été terminé il y a tout de même quelques mois. Donc l'idée, c'est que c'est le livre qui commande. Un livre est fini quand il est fini. Il faut écouter son livre, il vous le dit, quand il est terminé. Et ça ne se veut pas exhaustif, c'est un portrait de ces 3 ou 4 mois pendant lesquels le monde entier a connu une déflagration et vu par des voix juives, parce que je suis juif et parce que je me préoccupe depuis toujours d'inclure les voix juives dans la polyphonie européenne, dans les voix qui font notre discussion.
Johann Sfar, à deux reprises, vers la fin du livre, vous avez un texte en pleine page. Il y en a un sur la radicalité, un autre sur la presse. Pourquoi l'absence de dessin à ce moment-là et qu'est-ce que ça vous permet?
C'est une bonne question. Dans mes carnets, j'en mets encore plus des textes, parfois. Là, on a essayé de ne pas en mettre trop parce que ça fatigue les gens. Il y a quelques textes qui m'ont paru importants. D'abord, c'est les chiffres des populations juives dans le monde arabe dans les années 20 et maintenant, en Europe dans les années 20 et maintenant, et également quelques textes pour saisir l'esprit de la presse israélienne, comment ça fonctionne par rapport à la France, le débat politique là-bas. Parce que y a une fausse proximité avec Israël. Les gens s'imaginent qu'ils comprennent, mais en réalité, vu de l'extérieur, quand on ne connaît pas, on peut faire beaucoup de contresens. Donc j'ai tout de même un peu le petit espoir parfois de me faire comprendre. Mais bon.
Est-ce que Johann Sfar, vous évoquez dans le dossier de presse, il y a l'évocation d'une suite sur la vie, comment vivent les personnes en Israël, comment voient-ils l'avenir? C'est confirmé, vous avez
Je sais
commencé?
pas.
Non.
Non, 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 je sais pas. Non, non, je sais pas du tout ce que je ferai après. Non, j'ai toujours l'impression qu'il y a des choses à faire sur ce sujet, toujours dans l'idée de se faire comprendre, toujours tout ça. Mais là, c'est pas. Là, j'ai l'impression que ce livre se suffit à lui-même. Il intervient à un moment très particulier. Non, j'avais le rêve de faire un livre sur l'histoire du conflit. C'est un livre un peu plus vaste qui raconterait pourquoi il y a cette guerre. Elle dure pas depuis toujours. La bonne nouvelle, c'est que si une guerre dure pas depuis toujours, elle va forcément s'arrêter au bout d'un moment.
Johann Sfar, vous avez évoqué tout à l'heure la rapidité de réalisation. Qu'est-ce que vous permet cette rapidité et comment vous y êtes attaché?
Ah, ça c'est vraiment le plus grand intérêt artistique du projet, selon moi, c'est que c'est un livre fait d'après nature. Donc c'est un livre où il y a des portraits de dizaines de personnes que je regarde parler, que j'écoute. Il y a aussi des paysages, il y a des choses aussi bêtes qu'un pays en guerre dans lequel on doit se cacher à côté de la voiture quand il y a des bombardements, parce que Israël a reçu 140 000 roquettes depuis le 7 octobre. Aucun cessez-le-feu n'a arrêté les bombardements. Et donc raconter un pays en guerre avec un métier de dessinateur, il y a une part qui utilise le dessin dans ce qu'il sait faire de plus éveillé, quoi. Ça me réveille à mon propre dessin.
Johann Sfar, il y a une question sur la musique, sur l'ambiance musicale lorsque vous dessinez. Est-ce que vous avez évoqué d'autres personnes, la télé, mais est-ce qu'il y a de la musique?
Il y a du bruit, en tout cas, assez souvent. Il y a du souffle, pratiquement. Je crois que j'ai un dessin qui est beaucoup inspiré du dessin de gens comme Hugo Pratt, comme Quentin Blake, comme Reiser, même parfois, Sempé aussi. Donc, ce sont des dessinateurs qui laissent du blanc entre leurs traits, qui mettent assez souvent de l'aquarelle et dont le dessin est compatible avec la musique, avec la mélodie, oui.
Alors, dans Les Idolâtres, on a une forme bande dessinée beaucoup plus affirmée, avec un découpage en trois bandes, avec quelques images, avec une image par page à certains moments. Et au niveau de Nous vivrons, c'est beaucoup plus ouvert. Et pour Les Idolâtres, alors, comment se tient ce choix dans la durée? Est-ce que à des moments vous avez envie d'accélérer l'écriture?
Non, je crois que chaque type, ce qui est le premier, c'est l'histoire qu'on a envie de raconter. Donc ensuite, on trouve la forme qu'il faut. Ce qui est difficile, presque industriellement, pour ces deux livres, c'est qu'ils sont difficiles pour l'éditeur. C'est-à-dire que les Idolâtres, c'est comme Le Chat du Rabbin, c'est des grands formats couleurs, sauf qu'il y a 200 pages. Donc il y a un moment, même d'un point de vue industriel, pour eux, c'est compliqué de financer un album comme celui-là. Pour le dire grossièrement, il vaut mieux qu'ils se vendent. Et Nous vivrons encore plus, parce que Nous vivrons, c'est 450 pages en offset avec une couleur, mais bon, c'est une couleur quand même. Et donc ce sont des livres qui sont un défi aussi pour l'équipe éditoriale, qui sont un défi aussi pour les libraires, parce que quand ils les commandent, il y a un vrai investissement. Donc moi, j'aime beaucoup réfléchir à un ouvrage en pensant à toute la chaîne du livre et en réveillant tout le monde. Je ne veux pas être en situation d'avoir des gens qui disent « Oh, encore un livre de Johann Svarr », parce que j'en fais plein. J'aime bien qu'on soit surpris, qu'on se dise « Tiens, ça c'est différent. » Voilà.
Johann Svarr, quelle collaboration se fait avec l'éditeur? Comment, qu'est-ce que vous attendez comme retour d'un éditeur? Que ce
C'est
soit
très
les
intense.
arènes ou Dargaud?
C'est très intense. Les maisons d'édition sont très différentes. Je l'ai choisi, je sais pourquoi je l'ai choisi. Les arènes, je suis allé chez eux parce qu'ils ont une spécification dans les sciences humaines. Et Nous Vivrons, je voulais être encadré par des regards scientifiques d'une certaine façon. Dargaud, selon moi, c'est le grand éditeur de bande dessinée, le plus grand en France, si ce n'est le plus grand en Europe. J'ai la chance d'être chez eux depuis les années 1990 et c'est d'une certaine façon ma maison mère. C'est là que je fais mes livres les plus évidents, quoi, d'une certaine façon. Voilà.
Comment se place, par exemple, la série Donjon, qui est très réjouissante, libre, qui est un autre espace narratif dans cette écriture, comme Les Idolâtres ou vos carnets, comme Nous Vivons?
Bah, vous savez, Moebius disait, quand je fais une bande dessinée, j'allume ma petite télé intérieure. Donc quand on allume sa télé, on ne regarde pas tout le temps la même chaîne. Donjon, c'est ce que je fais de plus joyeux. Il y a peu de choses qui me fassent autant plaisir que Donjon. Et ça me fait d'autant plus plaisir que je le fais avec mon meilleur copain, je le fais avec Lewis Trondheim. Donc chaque année, on part ensemble en vacances. Et en fait, ce n'est pas des vacances parce qu'on n'aime pas les vacances. Donc on écrit des bandes dessinées. Et comme ça fait près de 30 ans que ça dure, je crois qu'on arrive au 60e album de Donjon bientôt, avec une famille de personnages qui sont un peu nos jouets, quoi. Ce sont les jouets qu'on en vacances.
Est-ce qu'il y a un regard sur la critique? Par exemple, pour Nous Vivons, vous avez eu beaucoup de radios, d'entretiens, de télé. Comment vous évaluez la critique aujourd'hui en bande dessinée?
Ça, c'est une vaste question. Nous Vivrons, c'est particulier parce que c'est un ouvrage qui parle du réel et c'est fait pour parler au journalisme de terrain, c'est fait pour compléter le travail de reporter. Donc, j'accepte volontiers toutes les invitations parce que il me semble que ça présente des informations qu'on ne trouve pas ailleurs sur le Proche-Orient parce que, tout simplement, mes personnages parlent plus longtemps, donc on peut approfondir. Ensuite, sur les autres bandes dessinées, moi, je suis un peu réactionnaire. J'aimais bien ma jeunesse où il y avait des ouvrages comme Les Cahiers de la bande dessinée, qui avait un regard un petit peu universitaire sur les BD. Et moi, je dois dire que j'aimais bien ça parce que je suis un ancien étudiant. Ce regard critique, il me semble qu'on l'entend moins aujourd'hui. Après, il y a tout de même une critique de bande dessinée. Je sais qu'il y a l'association des critiques de bande dessinée qui fait un travail formidable. Et puis, il y a un critique, on le fréquente dans la durée. C'est quand on lit les billets d'un même critique pendant 10 ans, pendant 20 ans, on se dit, ah bah tiens, lui, je suis d'accord avec lui sur certaines choses. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'auteur sans appareil critique et c'est très important. Et on a la chance en France d'avoir des critiques qui connaissent aussi bien les BD que le manga, que les comics. Il y a tout de même une agora assez intéressante qui parle des bandes dessinées.
Une dernière question, Johann Svarr, sur quel projet travaillez-vous actuellement? Si c'est
C'est une bonne
possible
question.
d'avoir quelques
Ah bah si,
informations.
non, bah enfin, vous allez être déçu, c'est pas un grand scoop. Je travaille sur le prochain Chat du Rabbin qui va parler d'Adam et Ève.
si,
Voilà.
c'est une belle
Bah voilà.
information quand même.
Voilà. Donc je travaille sur le prochain Chat du Rabbin.
Avec toujours le même. La même relation avec vos personnages
Bah oui, il me manque. Il
c'est
me manque,
ça.
je les dessine. C'est pas très malin, hein. Ce qui me motive pour dessiner, c'est tiens, j'ai envie de dessiner mon chat, bah je vais dessiner mon chat. C'est comme ça.
Merci beaucoup, Johann Svarr, d'avoir
C'est moi qui vous remercie.
respect, d'avoir de vous être prêté à cet entretien.
C'est
Je
moi qui vous remercie.
rappelle Les Idolâtres, publié par les éditions Dargaud, et les 208 pages sont au prix de 27 euros et c'est imprimé en France. Et puis Nous Vivons, enquête sur l'avenir des Juifs, publié par les Arènes, et les 456 pages sont au prix de 35 euros. À très
Merci
bientôt, Jeanne
beaucoup.
Sfar.
Merci
Merci.
Bruno. Au revoir.
Au
Au revoir.
revoir.
You get to eat my mind.
Why deteriorate from you?
Make you fool of blind.
All that questioning give you the clue.
I make you fully blind.
You got nothing to choose
by the way of the crew.
Ouais, c'était un medley du groupe Big Ukulele Syndicate. Vous vous rappelez quand ils sont passés à Ganges avec leur veste de bûcheron. Et puis les deux chanteurs, une femme et un homme, étaient en costume de soirée. Lui était impeccable avec costard et nœud papillon. Elle en robe de soirée flamboyante. Et ils ont fait une reprise de Nirvana, mais c'était absolument grandiose. Moi, j'ai pas pu vous la sortir, celle-là, mais j'ai pas trouvé. Pour la semaine prochaine, nous serons en studio avec Émile Bourget. Émile Bourget, c'est l'assistant réalisateur de Paul Grimaud sur le film Le Roi et l'Oiseau, qui est maintenant un grand, grand classique. Et il y a eu un livre qui vient d'être réédité et donc, à cette occasion, eh bien, Émile Bourget va venir nous parler du Roi et l'Oiseau et de ce qu'est le travail d'assistant réalisateur sur un tel film. Bonne semaine à tous. Et sur les ondes de Radio Escapade, j'allais oublier.
Écriture dessinée.